Bonjour à tous, je m'appelle Lambert Chalet et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de B-Side consacré aux bandes son de films. Je précise tout de suite que les musiques que vous allez entendre ne sont pas forcément le thème principal du film, et je précise aussi que ce sont des musiques qui m'ont marqué. Je ne suis pas critique cinématographique. Je vais d'abord commencer par un film qui me tire particulièrement à cœur, Le Dernier des Mohicans. Vous aurez peut-être reconnu cette bande originale en connaissant le film ou non, c'est une musique qui a été beaucoup réutilisée. Le Dernier Mohican est un film réalisé par Michael Mann, qui a notamment réalisé Hit, Public Enemies ou encore Miami Vice, de Flic à Miami. Le synopsis est assez simple. En 1757, durant la guerre de 7 ans, Français et Anglais se disputent les territoires indiens. Au milieu de ce conflit, deux jeunes femmes, Cora et Alice, escortées par le major Duncan, veulent rejoindre leur père au Fort William Henry. Mais ils sont trahis par leur éclaireur, Magua, et ne doivent leur vie qu'à trois indiens de la tribu des Mohicans, Chingachgook et ses deux fils, Uncas et Nathanael, qui acceptent de les escorter jusqu'au fort. Ce film réunit des acteurs assez connus comme Daniel Day-Lewis, Gangs of New York, au nom du père ou There Will Be Blood, mais aussi, et c'est l'une des particularités du film, un protagoniste, Chingachgook, joué par un acteur et activiste amérindien, Russell Means, qui est un représentant des Lakota Ogala, plus couramment appelé Sioux. Je vais sûrement manquer d'objectivité, car c'est un film qui me suit depuis que je suis enfant. C'est le premier film d'aventure action que j'ai vu, et probablement celui qui m'a fait aimer le cinéma. L'histoire est assez basique, deux camps qui s'entraident, Anglais Mohicans, avec en figure de méchants, les Français et les Hurons, clan dont fait partie l'éclaireur Magua. L'histoire d'amour est somme toute assez téléphonée, Cora avec Nathanael et Alice avec Uncas, deux mondes à l'opposé l'un de l'autre, mais qui s'aiment malgré leurs différences flagrantes. Mais dès le départ, on est plongé dans l'univers du film, grâce aux décors et costumes qui, historiquement, sont très fidèles, sans tomber dans le piège de l'anachronisme, car le contexte n'est abordé que très brièvement. Enfin, beaucoup de thèmes importants sont abordés, le racisme, anti-indien mais aussi anti-blanc, comme dans cette scène où Nathanael explique à Cora que son père l'a toujours mis en garde contre le peuple blanc, dont il est pourtant issu, qui est, selon lui, une espèce à part remplie d'incohérences. Les travers de la couronne anglaise et le traitement des classes plus basses par les élites bourgeoises, à plusieurs passages du film, nous voyons clairement que les Anglais ne respectent pas leurs promesses et n'ont que faire des paysans attaqués par les Indiens. Par exemple, lorsque le colonel Monroe ne veut pas que les soldats partent protéger leur famille, lorsque d'un camp ment sur les faits que les Camerounais ont été massacrés. Et l'amour impossible, Cora et Nathanael ou Alice Uncas. Les scènes de bataille sont épiques et vraiment belles, le réalisateur mélange avec brio, musique et images, comme dans le final qui est d'ailleurs magnifique. Pour résumer, c'est un film que je vous conseille de voir au moins une fois dans votre vie.
Thank you.
vous venez d'entendre Mononoke Hime, ou Princesse Mononoke en français, qui est un film d'animation de Hayao Miyazaki, sorti en 1997 par le studio Ghibli, qui ont notamment produit Le Voyage de Chihiro, Mon Voisin Totoro ou Le Château dans le Ciel, pour ne citer que. Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. Différents mythes et légendes japonaises sont évoqués tout au long de ce film, de l'esprit de la forêt à la princesse Mononoke, les références sont nombreuses, mais il n'est pas nécessaire de connaître toute la culture japonaise pour apprécier celui-ci et le comprendre. C'est une ode à l'écologie, mettant en scène un combat de chaque instant entre les hommes et la nature personnifiée, mais à l'instar de ses autres films, le film n'est pas manichéen, il n'y a pas réellement de bien et de mal. Les deux parties ont leur raison de se battre, les hommes, qui veulent pouvoir survivre et ne plus être en danger constant dans la forêt, et la nature, qui veut faire cesser les exactions des hommes contre la nature. Mais les deux parties utilisent des moyens peu orthodoxes pour arriver à leur fin. Les hommes détruisent la nature et tuent les animaux, ou leur infligent des blessures qui les rendent fous, par peur, mais aussi par profit personnel. Les animaux commencent à vouer une haine envers les humains, et décident de les tuer, sans distinction, ceci par vengeance, mais aussi par peur de l'humain. Le héros Ashitaka est quant à lui tiraillé entre les deux parties, et n'est pas le héros selon les termes que l'on connaît en général. C'est l'un des héros du film car c'est l'un des protagonistes, mais autre statut, c'est un humain, avec ses forces et ses faiblesses. Touché par la malédiction du sanglier, il ne sait pas où se placer entre le combat des humains et celui des animaux. Il veut aider les humains car ce sont ses semblables, tout en gardant à l'esprit que sans leurs actions, ils n'auraient pas été maudits, et essaie de leur faire comprendre qu'il faut vivre en accord avec la nature et non en combat contre elle. Mais il veut aussi sauver la nature et trouver l'esprit de la forêt tout en condamnant les tueries que perpétuent les animaux. En somme, il est rejeté par les humains car il est maudit, mais aussi par les animaux car il est humain. C'est dans cette dualité que nous suivons les aventures d'Ashitaka. Une romance prend aussi forme entre Ashitaka et la princesse Mononoke, princesse élevée par les loups, qui se bat pour les animaux. Elle rejette dans un premier temps Ashitaka car il est humain, mais tout au long du film, leur histoire d'amour évolue pour atteindre son paroxysme dans un final mêlant bataille épique et prise de conscience. Ce film d'animation nous préconise, sans être moraliste, de respecter la nature car à son tour, elle voudra reprendre ses droits et cela se fera peut-être dans la douleur. Vous venez d'entendre Heaven and Earth de Kitaro. En français, entre ciel et terre. L'itinéraire d'une jeune femme vietnamienne, Lely, avant la guerre du Vietnam, pendant celle-ci, et les conséquences désastreuses qu'elles auront sur elle, mais aussi sur son mari, un soldat américain. Après Platoon, centré sur le conflit vietnamien lui-même et les horreurs de cette guerre, né un 4 juillet, axé sur le retour des soldats américains après ce conflit, et des traumatismes qui en découlent, Oliver Stone nous livre son troisième film sur cette guerre. Il est pour moi le plus abouti car il traite de tous les aspects de celle-ci. L'avant-guerre du Vietnam chez les Vietnamiens, le conflit vu de l'intérieur, les conséquences de la prise de pouvoir des Vietcong et le retour des soldats américains aux États-Unis et leur traumatisme. Qui de mieux placé qu'Oliver Stone pour narrer cette guerre? En effet, Oliver Stone a été envoyé comme soldat au Vietnam. Il en revient traumatisé. Cette trilogie est une sorte d'exorcisme afin de faire comprendre au monde ce qu'il a vécu, mais aussi ce qu'il a vu. Tout au long de ce film, on vit la guerre de l'intérieur. Pour la première fois, il s'intéresse au ressenti de la population vietnamienne, car, en effet, en plus d'un conflit mondial, c'est aussi une guerre civile qui s'est déroulée. Les manuels d'histoire nous disent que les Américains ont perdu la guerre, mais à quel prix? Dans quel état ont-ils laissé le pays? Coupé entre le Sud et le Nord, l'on voit bien dans les films les tortures psychologiques, comme physiques, que la population subissait des deux côtés. Mais c'est aussi une histoire d'amour qui se déroule entre une Vietnamienne et un Américain. Comment leurs familles vont-elles le vivre? Le retour pour certains et l'arrivée pour d'autres sur le territoire américain? Ne va-t-il pas être trop difficile? Ici, pas de manichéisme. Personne n'est gentil, personne n'est méchant. Les deux camps ont leur part d'horreur. Oliver Stone, dans sa trilogie, tient à faire comprendre au monde ce qu'est réellement la guerre sale, la guerre psychologique et la guerre qui marque. Ici, pas de John Rambo héroïque. Seulement deux personnes au milieu d'un conflit qui les dépasse et qu'ils essaient de comprendre par amour de leur pays, deux pays que tout oppose. Ce dernier film est bien le savant mélange du film Platoon et Né un 4 juillet, avec une touche de récit de ce qu'on voit sur place. Récit que seul quelqu'un qui l'a vécu peut nous narrer. À l'instant, vous venez d'entendre Yumeji's Theme du film In the Mood for Love. Passons maintenant au film asiatique. Wong Kar-wai est un réalisateur chinois. Il est connu pour des films comme 2046 ou plus récemment The Grandmaster, où se mêlent esthétisme et bande-son. Nous allons aujourd'hui parler du film qu'il a fait connaître dans le monde entier et multi-récompensé In the Mood for Love, dont vous aurez peut-être reconnu la bande originale. Sans forcément mettre de nom sur le film qui l'accompagne. Elle a été composée par Michael Galasso et Shigeru Umebayashi, et l'extrait que vous venez d'écouter s'intitule Yumeji's Theme. Hong Kong 1962. Monsieur et Madame Cho emménagent dans leur nouvel appartement, le même jour que leur voisin Monsieur et Madame Sean. Sans comprendre comment cela commence, Cho Mo-wan et Sean Lee-zen apprennent que leurs époux respectifs ont une liaison. Cette découverte les choque mais les rapproche. Ils se voient de plus en plus souvent, mais le voisinage commence à s'en apercevoir. Il semble n'y avoir aucune possibilité pour eux de vivre une relation amoureuse, mais la retenue, les réserves émotionnelles de Madame Chan hantent Monsieur Cho, qui sent ses sentiments changer. Wong Kar-wai nous livre un huis clos intimiste, plein de retenue avec une esthétique léchée. J'ai mis quelque temps avant de faire voir ce film, j'en avais tellement entendu parler que la peur d'être déçu me limitait quelque peu. De plus, ce n'est pas forcément le genre de film que j'affectionne le plus. Les films de Wong Kar-wai sont, somme toute, assez lents. J'ai donc d'abord vu l'un de ses derniers films, The Grandmaster, un film sur le mentor de Bruce Lee, avec des scènes d'arts martiaux très esthétiques, comme dans Tigre et Dragon ou Le Secret des Poignards Volants par exemple. Et je dois avouer qu'il a piqué ma curiosité et m'a donné envie de voir ses autres films. Je connaissais déjà la bande originale sans pouvoir réellement mettre d'image dessus. Le film est assez court, 1h38, mais l'on ne s'ennuie pas un seul moment, par les images et la musique qui s'entremêlent, mais aussi par cette intrigue dont on a envie de connaître le dénouement. Et j'ai été agréablement surpris par ce film qui, pour moi, est l'un des plus beaux films qu'il m'était donné de voir. De nos jours, l'on connaît surtout le cinéma asiatique et surtout coréen pour des films noirs, avec une ambiance pesante et une horreur non pas visuelle mais suggérée, dont eux seuls ont le secret. Je vous conseille d'ailleurs le très bon « J'ai rencontré le diable » si vous avez l'occasion de le voir, mais je vous mets en garde, préparez-vous avant de le voir. Le seul film de romance asiatique que j'avais déjà vu s'appelait « L'amant », réalisé par Jean-Jacques Hano et tiré du roman éponyme de Marguerite Duras. C'est un film français, anglais et vietnamien. En résumé, je conseille In the Mood for Love à tout le monde. C'est un film d'une beauté rare, tout en retenue, et dont vous ressortirez avec un regard nouveau sur le cinéma asiatique. Voilà, c'était Lambert Chalet pour B-Side. À vous les studios.
Jérusalem, ville d'or et de cuivre, ville de lumière. Pour toutes tes chansons, je suis le violon. Avirari tsalul kayahin, pereacho ranim, nisav ruach harbaim, im kol paham monim. ופתר דמת אילן והבל שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור איך ישבו מורות המים כיכר השוק ריקה ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה ובמרות אשר בסלע מהלילות הרוחות ואין יורדת ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני חזרנו אל בורות המים לשוב ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמנות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות לשוב לרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים ירושלים